C'est une reprise de Radiohead, ça, non?
Non, pas du tout. Chapelier Fou, P Magister sur Radio FMR. T'as pas fini ton texte, c'est ça?
Allez, c'est bon?
Oui, oui.
Eh bien, vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 18 janvier 2014, nos programmes pour cet après-midi, à 13h30, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, enfin, on espère, d'habitude ça saute, à 15h du reggae avec Jeannot Dead, et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz, mais dans l'immédiat, voici le rendez-vous hard-boiled que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Bonne année.
Bon choix, effectivement.
Hein, d'accord. Ok. Alors, c'est du gar tennis, bien sûr.
On se passera de décrire aux auditeurs ce que nous avons pu voir.
Ah, ouais. On peut pas.
Et puis bon, il en manque. Il y a encore plus.
Donc, ah, y a plus.
Ouais. Je dis, il manque les enfants.
Radio FMR présente le magazine des cultures geek en modulation de fréquence analogique. Le supplément week-end avec, dans cet épisode, du sport ultimatum d'Askrich en direct studio de Radio FMR.
Bonjour et bienvenue, désolé de ne pas être là la semaine dernière. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, ça nous fait du bien. Oh pardon, excuse-moi.
On ne dit pas désolé de ne pas avoir été là, plutôt.
Enfin, je ne sais plus. À peu près. Bonjour et bienvenue.
J'espère qu'on vous a pas trop manqué.
Eh ben enfin... ça tombe bien en tout cas, si on vous a manqué, on a du contenu, on a des promeneurs du temps, on a du polar dans Western, il me semble.
Oui, enfin ouais, polar. Ouais. Polar désertique.
On a du polar pour le démon, je crois.
Non, c'est pas un polar hein. Non, c'est un bouquin sur la musique.
On met dit polar parce que comme ça l'arrange pour faire sa programmation.
Non, il s'est fait planter parce que je lui ai dit que c'était chez Rivage, donc il s'est dit ok. Mais c'est Rivage Rouge, c'est pas la même chose.
Bah oui, désolé.
On a aussi du polar de super-héros.
On a du darwinisme effréné, on a quelque chose de surprise, on a de la prog télé et on aura peut-être même de l'anti-bêtisier à la fin, un petit bonus, on verra en 30 secondes. En attendant, bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 18 janvier 2014. Pour ceux qui ne nous avaient pas écoutés dans les semaines précédentes, nous vous souhaitons une bonne année, une bonne santé et tous nos meilleurs voeux de plaisir et de joie entre les deux oreilles.
Ah, pas mal, c'est vrai qu'on formule.
Oui, parce que c'était le slogan de la radio à un moment, c'était la radio qui vous quenelle entre les deux oreilles.
Oula, ouais. C'est... D'accord, oui. C'est d'actualité en plus.
Non, mais c'est... j'ai remplacé le mot.
D'accord.
Parce que sinon, on se prenait un...
Ah.
On va commencer avec une news qu'on aurait aimé vous annoncer la semaine dernière. C'est l'hommage inattendu d'un dessin animé américain à un grand du mondial du dessin animé qui est d'origine japonaise, qui soi-disant arrête.
Enfin, qui est pas d'origine japonaise, qui est japonais.
Ouais, qui est japonais. Enfin, oui. Moi, je parie 50 euros qu'il va pas s'arrêter Miyazaki, mais bon, ça c'est personnel. Il y a eu, par exemple, à Toulouse, avant-hier, il me semble, une avant-première au Gaumont avec un orchestre qui a fait des reprises de ses thèmes. Orchestre amateur. Et ben là, ce qui s'est passé dimanche dernier sur le réseau Fox, et encore plus fort, les Simpsons ont fait un hommage complet à l'univers de Miyazaki, où Homer Simpson a un peu trop bu l'eau de l'aquarium et se retrouve dans un univers parallèle où on voit passer les deux sœurs de Marge en sorcière Kiki, il y a un Chabus bizarre en compagnon de beuverie, il y a plein de choses qui se sont passées. Ça, c'est la bande-annonce qui a été mise sur YouTube en 90 secondes et c'est indescriptible. C'est un grand moment de n'importe quoi. Il y a le château ambulant, il y a tout.
Ah, moi, j'ai pas vu. Il faut que je le vois cet après-midi.
Légalement, bien sûr.
Bah oui, bah c'est sur YouTube la bande-annonce, attends.
Hein, quand même.
Bah, c'est légal, YouTube.
Tout à fait. J'aimerais faire un hommage personnel.
Pas partout.
À Marie-Pierre Larrivée, journaliste à l'AFP qui nous a quittés en début de mois. Journaliste à l'AFP, elle nous a quittés à 72 ans. C'est une amie personnelle parce que elle fait partie elle faisait partie de la CBD. Elle a été journaliste en charge de la culture et de l'éducation pendant 36 ans au sein de l'AFP. Elle a commencé à écrire ses premiers papiers au début des années 60, puis elle est allée vivre aux États-Unis pendant 5 ans à partir de 63. Et elle a continué en fait à écrire jusqu'en 2006 des papiers. C'est une militante, c'est une féministe. C'était une bédéphile et elle s'est toujours énormément impliquée dans ce qui l'a passionnée. Elle a tenu une gazette sur l'univers de Montmartre qui était très suivie, donc plein de choses derrière. Ça me fait un peu bizarre parce que c'est quelqu'un, ça fait partie de ces gens qu'on voyait de temps à autre à Angoulême entre nous. Mais Marie-Pierre Larrivée, moi je me souviens quand même d'une personnalité attachante et forte en gueule. Cultivé et avec qui il y avait toujours un immense plaisir de partager. Moi, je me souviens encore quand on a nommé au prix de la critique Jimmy Corrigan, qui est du dessin technique, qui est assez fin quand même. Elle a dit à la fin du tour de vote où on était une trentaine de journalistes réunis dans une salle, elle a dit « Ah, les miens pour décider de faire chier les presbytes !» Et elle me regardait, elle était à côté de moi parce que moi j'avais voté justement pour Jimmy Corrigan. Alors que le soir même, franchement, on a bu un pot, on a parlé de plein de choses justement sur la bande dessinée, est-ce qu'il y a vraiment une légitimité des fois à pour moi-même à être présent au sein de la CBD ou justement ce que l'on peut amener en parlant de bande dessinée et d'actualité. C'était extrêmement passionnant. Nos avis franchement ont divergé, mais il y a des personnes avec qui la discussion est extrêmement enrichissante et c'est un immense plaisir à chaque fois et c'était des grands éclats de rire avec elle. Marie-Pierre, c'est une de ces personnes qui justement vous éclaire et elle était passionnée, elle était généreuse, elle était ouverte. Et elle va me manquer, voilà. Marie-Pierre, merci pour tout. Tout à fait autre chose, c'est une prise de bec avec des extrémistes religieux. Cette fois-ci, ce n'est plus Guillaume Champeau qui a été dénoncé par un organe d'information juif extrémiste, comme quoi il faisait des quenelles sur les monuments aux morts de la Shoah. Alors que pas du tout, c'était pas lui. Et ils s'en sont même pas excusés d'ailleurs, ce qui est absolument scandaleux. Là maintenant, c'est Boulet qui s'est pris la tête avec des extrémistes catholiques. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une planche sur son blog sur ce qu'est la légende dorée. Alors je vous explique, quand on canonise un saint, on amplifie un petit peu sa vie, on exagère un petit peu pour dire « Regardez ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, il a vécu loin du péché, il s'en est sorti. » il décrit que son saint patron, Gilles,
Non, c'est pas ça, c'est que en fait il est en train de bouquiner un livre justement sur les saints et donc il tombe sur saint machin qui ont été écorchés, écartelés, sauf que Dieu les a fait ressusciter à recoller le corps, on les a décapités, au lieu d'avoir du sang, il y a du lait qui est sorti, etc. Bon, c'est des trucs super impressionnants. Et puis lui, il regarde à son saint patron, à lui Saint Gilles, et en fait Saint Gilles a juste bu du lait d'une biche. Alors c'est la loose.
Pendant donc, une année pour se soigner, oui.
Voilà, et en fait c'est la loose. Alors il a imaginé un dialogue entre les saints, entre eux, et alors, du coup il y a Saint-Gilles qui est un peu... il a un complexe d'infériorité par rapport aux autres, et puis il commence à semer le why. Il dit, ouais, bon, toi, ouais, ça va, c'est pas possible, ça va s'exagérer, alors que moi, bon, au moins c'est peut-être moins...
spectaculaire.
C'est moins spectaculaire, mais au moins moi, ça... c'est sûr, c'est arrivé. Alors les autres disent ouais, c'est bon, tu la fermes et tout. Alors c'est un gros pataquès. Alors c'est très très rigolo.
Alors il y a un article dans la revue catholique La Vie qui est très très qui est reconnaissant en fait. Hein, Boulet d'ailleurs, il cite le bouquin en question, c'est La Fleur des Saints d'Homère Engelbert, c'est publié chez Albin Michel, et ils disent que justement c'est une lecture qui est très rafraîchissante. Ils terminaient leur article en disant ça, le regard de Boulet sur la sainteté, on en redemande, parce que justement c'est critique et qu'il y en a besoin de ce côté-là. Et à côté, évidemment, les intégristes, ça leur plaît pas du tout. Donc ils ont pris les planches de Boulet, ils ont publié sur leur site en disant c'est honteux, heureusement que ça n'est pas lu et tout ça. Et Boulet a fait une réponse sur Facebook, il me semble, dans leur page, qui est à pleurer de rire. Il leur dit oui, bon, c'est vrai, moi je suis déçu que cette page n'a pas eu grand succès, elle n'a été lue que par 26 939 personnes. Elle a connu 300 partages sur Twitter, 196 fois sur Facebook, seulement liké un millier de fois. Je suis un petit peu déçu, voilà. Donc voilà le site internet que je vous invite à lire en entier tant que vous y êtes, bouletcorp.com. Je vous souhaite une très bonne journée. Gilles Roussel, baptisé en 75 à la cathédrale de Meaux, communion à l'église de Molloy, profession de foi et confirmation à Sceaux-le-Duc dans les années 90, scout d'Europe. Il faut savoir que les scouts d'Europe, c'est parmi les plus intégristes, hein, quand même. Dans les années 90, c'est ex-enfant de cœur. Alors, quand on le voit avec sa voix de basse, on en rigole, on en redemande. Je pense que maintenant, il joue justement là-dessus. C'est la meilleure réponse que l'on peut donner aux intégristes de tous bords, qui s'appellent Dieudonné, ou qui s'appellent les cathos,
dommage,
les musulmans, tout ça.
Il était bien parti.
Allez-y, allez-y, moquez-vous d'eux. Il y a rien d'autre chose à faire. Ils sont tellement murés dans leur truc. Le meilleur moyen, c'est soit de les ignorer, soit de les tourner en ridicule, ce qu'ils sont de toute façon.
Non, en plus le gag de Boulet, la chute, c'était
très drôle. Ouais.
C'était écorché, décapité, on lui a coupé les tétons et tout, et dire qu'on nous disait que Dragon Ball c'était trop violent.
Il faut noter que d'ailleurs c'est le genre de petite histoire qu'on peut trouver dans un des quotidiens gratuits qui sont distribués à la sortie du métro. Si tu regardes la page où il y a la météo et les trucs pratiques, l'horoscope, il y a également le saint du jour, et je sais pas s'ils le font toujours, et le saint du jour justement, quoi, bah ils expliquent un petit peu rapidement sa vie en quelques lignes, et justement les détails des exécutions et des calvaires sont vraiment assez intéressants à ce niveau-là, quoi.
Ça
vaut vraiment le coup.
Là,
mais bon, il faut le dire.
Bon, par contre, ce qui manque, c'est une note artistique, une note technique et tout ça sur les calvaires.
Non, mais en plus c'est bien parce que sur le site de Boulet, on peut laisser promener la souris quelque temps, et il y a des infos. Et dans l'infobulle, il y en avait une qui avait été traînée dans les rues de je sais plus quelle ville, et en fait il y avait un chiffre astronomique de bœuf. Et alors il avait calculé la largeur de la rue pour laisser passer.
C'est Sainte Blandine à Toulouse, rue du Thor.
Voilà. Et il avait calculé
Saint-Antoine.
Oui, aussi, oui, il y en a eu deux d'ailleurs.
Enfin, il avait calculé la largeur de la rue pour laisser passer tel nombre de bœufs, et puis il disait ouais, tous ces bœufs, je pense que ça devrait pas sentir très bon dans la ville quand même.
Vous écoutez Radio FM1 sur le supplément week-end numéro 372, et on va entamer les sorties bandes dessinées avec quelque chose de champêtre et d'amusant, mais on va rester dans le pacifisme, donc je déconne. On va être dans le merveilleux et le fantastique, mais un très intéressant exercice de style. Les Promeneurs du Temps, le tome 3, est sorti aux éditions Poivre et Sel depuis un mois, je suis désolé. C'est de Vial et d'Orange, et le troisième tome s'appelle Le Paradoxe du Multivers. Alors, on avait déjà chroniqué le tome 2, j'avais pas eu le tome 1, donc en fait, on l'a repris en cours de route. Et dans ce troisième tome, le commissaire Ambroise Clé est toujours le commissaire le plus fin limier du quai des Orfèvres, mais il est confronté au plus grand mystère de sa carrière sans qu'il arrive à le comprendre. Nous sommes toujours au petit matin du premier jour du 20e siècle, comme pour les deux précédents albums de la série, et il rencontre encore Isidore, un gamin de 8 ans, excentrique, qui se dit à la fois médium et capable de voyager dans le temps par la force de son esprit. Bref, la belle époque n'est absolument plus ce qu'elle était. Et dans les gribouillages du marmot, qu'il a suivi quand même au cas où, hein, on sait jamais, Le commissaire y apprend une histoire qui va se dérouler dans un univers parallèle et où il se fait lâchement assassiner par un renégat. Ouais, c'est une fable, hein, assurément. Ambroise n'en aurait strictement que faire si la mère du gamin n'était pas d'une beauté stupéfiante et surtout délaissée par son diplomate de mari. Sauf que voilà, témoin de phénomènes très étranges, eh ben, le commissaire est obligé de reconnaître que la science n'a pas encore tout expliqué et que oui, des hommes du futur sont parmi nous, parfois pour commettre des meurtres. Ah, résoudre les meurtres? Ah, même pas encore commis. Oui, même pas encore commis. Enfin, voilà, ça parle en brosse-clé. Donc, oui, il va essayer d'empêcher ces meurtres et tout ça. Et c'est toujours, donc, cette série, Les Promeneurs du Temps, c'est toujours la même date qui est le point de départ. Les événements des précédents épisodes se passent en parallèle, mais ne doivent nullement être troublés. Bref, la série devient un véritable exercice de style autour du paradoxe temporel, comme le furent par exemple la série Valerian et Laureline, on en a parlé récemment, ou encore Universal War One de Bajram. De fait, peut-être qu'il aurait fallu que je le chroniquasse dans une même émission les trois séries pour en percevoir l'exploit de jouer avec cette notion, puisque c'est quand même absolument pas évident. Les Promeneurs du Temps, le tome 3 s'appelle Le Paradoxe du Multivers, c'est aux éditions Poivre et Sel, c'est de Vial et d'Orange, c'est toujours d'un dessin qui est magnifique, qui est pastel dans les tons, mais en fait bon, c'est fait sous Illustrator, mais c'est très beau, c'est à la fois naïf, à la fois justement belle époque. Dans les décors, ben oui, forcément. Et il y a un peu ce petit côté Jules Verne ou J.R. Wells, c'est vraiment très beau. Et une fois de plus, moi je me suis délecté, c'était un grand moment, c'était vraiment du bonheur. Et je précise, c'est accessible à tout le monde. Ça peut être lu par des collégiens ou même en école primaire, tout comme ça peut être lu par les parents. Ambiance, ultimatum.
Ah oui,
je crois que.
Moi.
Bah oui. Tu et suis oui, pas alors. Le conducteur, toi.
Eh ouais, désolé, ouais. Je baillais au corneille. Alors, Tyler Cross, tome 1 de scénario de Fabien Uri, dessin de Bruno, c'est paru chez Dargo. Alors, c'est un bouquin à forte pagination avec un. Voilà, je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi, il y a de quoi manger si vous procurez cette BD. Alors, Tyler Cross, c'est un mercenaire. Et suite à un contrat qui a mal tourné, il transporte 17 kilos d'héroïne pure, parce qu'il devait la s'utiliser à d'autres malfrats pour un baron de la drogue, enfin qui s'était promis de lui racheter, mais par contre le baron il a clamsé avant, donc il se trouve avec de l'héroïne impossible à écouler, et il a demandé à son avocat véreux de lui trouver un acheteur. Sauf que entre temps, sa bagnole tombe en rade dans une route désertique comme l'Amérique profonde a le chic de nous offrir dans ses fictions, et il se dit que ça va bientôt sentir mauvais s'il n'arrive pas à écouler sa marchandise assez vite. Manque de bol, il a que 21$ en poche, la voiture donc en rade, et un bled qui s'appelle Black Rock, qui est pas très fréquentable, puisqu'il a la particularité d'être gouverné par une famille de ripoux, habitués à ce que rien ne leur résiste. Justement, Tyler Cross va commencer à bousiller un peu ses habitudes. Alors, on a donc un bled, des ripoux, beaucoup de ripoux, une demoiselle en détresse, des ripoux, et encore des ripoux, et des malfrats aussi, et un serpent. Donc, c'est vraiment le type d'histoire. Alors, je sais que du sport est quand même un petit fan de ce film que je n'aime pas beaucoup, mais qui a le mérite d'avoir une belle signature d'Oliver Stone qui s'appelle U-Turn. Et on voit vraiment cet univers-là dans Tyler Cross, si vous aimez bien les anti-héros, les petites frappes, les gros bouseux redneck dans les bleds paumés de merde de l'Amérique profonde avec de la poussière crasse, des femmes fatales dont il faut beaucoup beaucoup se méfier. et beaucoup de cadavres laissés sur la route. Alors là, vraiment, c'est une BD qui est faite pour vous. Alors, c'est pas que ça, puisque c'est quand même une tradition dans le polar américain. C'est une plongée dans cette tradition-là, puisque pour la petite histoire, Bruno, un grand fan des films de genre américains des années 70, avait demandé à Fabien Nuri de lui écrire un scénario dans cette veine-là, parce qu'il voulait faire vraiment un hommage au revenge movie à la Charles Bronson. Le scénariste lui a dit, écoute Coco, moi c'est pas trop ma cam, moi j'aimerais plutôt faire une histoire qui se passerait dans les années 50, justement, regarde, il y a ça, c'est une photo promotionnelle pour un film de Frey Bogart. Ah ouais, pas mal. Bon ben écoute, on va faire plutôt ça. Donc du coup, c'est un hommage au film des 50s. Les cadrages et découpages, c'est un hommage pur jus au cinémascope, hein, puisqu'il a, c'est vraiment un rectangle sur la largeur, voilà.
C'est impressionnant, j'ai l'impression aussi qu'il a énormément changé, justement, sa manière de cadrer, qu'il y a beaucoup plus de, sur le trait par rapport à Junk et tout ça. Il y a vraiment une évolution, c'est flagrant. Hein.
Alors, c'est quelqu'un qui a toujours, d'ailleurs, l'interview qu'il nous avait accordé, il nous l'avait dit, que c'était quelqu'un qui était très cinéphage. Et puis là, c'est de plus en plus assumé dans ses histoires, dans ses bandes dessinées. Déjà, le précédent qu'on avait chroniqué ici, qui était Lorna, qui était vraiment un hommage au film vraiment série Z de SF fauché. Donc là, c'est vraiment le polar américain pur jus. Donc c'est toujours les cadrages en cinémascope, on le disait. Et puis, il y a aussi quelques trouvailles vraiment rigolotes. Par exemple, outre le côté western, on a donc le côté décalé des récitatifs. Alors, par exemple, il y a une énorme gunfight à un moment donné, puis il y a un gars qui lui avait fait des noises un peu plus tôt dans l'histoire, et là le récitatif il te dit là il y a Tyler Cross partagé entre l'envie de déguerpir aussitôt et de se faire quelque justice, et là t'as un gros plan, il flingue complètement gratuitement un mec d'une balle dans la tête. Tyler Cross se permet un geste d'humeur.
Pas mal.
Récitatifs assez décalés. On a une séquence d'évasion d'une prison intégralement du point de vue du serpent. Le serpent qui danse une cage. Donc en fait, c'est. Mais en plus, quand c'est intégralement, c'est une double page carrément avec un filtre vert. C'est plongé dans la psyché du serpent. On a également un très très long flashback sur un perso secondaire. Donc tu te dis. Au fil des poches, je dis, mais c'est quand que ça s'arrête? Moi, je veux revenir à Tyler Cross, moi. Et alors après, c'est pour contextualiser vraiment le destin complètement pourri des personnages qui sont complètement exploités, qui crèvent la gueule ouverte parce qu'ils sont, ils ont été ratiboisés de tout leur dernier denier par cette famille de gros malades qui régit la ville. On a des séquences d'humiliation. Tu dis, ouais, fou, vivement qu'ils payent pour leur crime, voilà. Toujours chez Bruno, t'as de la scène de sexe obligée. D'ailleurs, justement, Bruno, sur son blog, il a mis quelques images sur un blog à part, puisque c'est quand même vachement osé. C'est son prochain projet qui s'appelle Pornopia, qui paraîtra début février chez Glénat. Et en fait, c'est juste purement et simplement des scènes porno, mais avec son trait à lui. Donc, pardon pour les enfants, je prends des mots techniques volontairement, donc des scènes de fellation, des gros plans, toutes la gamme du Kama Sutra y passe, mais avec son trait à lui, donc c'est de la ligne claire, mais quand même des cadrages porno, donc c'est assez rigolo. Il a mis c'est en format un peu polaroid, donc je sais pas trop si ça va être un recueil de scènes comme ça ou si ça va être vraiment une vraie histoire. En tout cas, dans Lorna, il y avait une forte proportion de femmes géantes à poil. Là, c'est pareil, la nana en détresse, elle est correctement... on a envie d'aller l'aider, quoi.
Pourquoi tu dis nana? Faut dire demoiselle en détresse.
Demoiselle en... Ouais, elle n'est plus demoiselle puisqu'il y a une histoire de mariage dedans. Ah. Alors voilà, Tyler Cross, tome 1.
Bonjour, madame.
Scénario de Fabien Nuri, dessin de Bruno chez Dargaud. Alors, en plus, le trait de Bruno fait que les images se lisent vite. Pour les fans savent que en fait il faut gratter un petit peu parce que tu vois que le mec il maîtrise grave son style et
il faut pas croire que y a un manque de maîtrise. Non, vous faites pas piéger, ça vaut le coup, il faut regarder fois il y a des sacrés clins d'œil.
Et c'est quand même un bouquin de 100 pages, donc il y a de quoi bouffer en histoire aussi. Donc voilà, c'est un excellent album. Il a eu le prix du Point, le 10e prix BD du Point cette année, et les observateurs disent qu'il se pourrait qu'il ait des trucs à Angoulême aussi. Donc voilà, Tyler Cross, le tome 1, il faut espérer la suite, puisque vraiment, c'est un début très très réussi.
Et petite info d'ailleurs, on ne sera pas à Angoulême cette année, mais on aura un envoyé. Après, apparemment, on aura une correspondance sur place.
On essaiera de lui donner des gages, tiens.
À Pete. Ouais. Pete, des
ouais,
bêtes.
Ouais.
C'était malade. Monsieur Wong, pardon. Et on va rester dans le même style graphique dans le bouquin qui suit. Puisqu'il s'agit de Darwin, le premier tome de cette nouvelle série s'appelle Castle. C'est de Wuzit, qui est un dessinateur qui est sur Toulouse. Donc c'est aux éditions Poivre et Sel. Et ça se passe dans un futur qui pourrait être demain. Et des pêcheurs remontent dans leur filet des espèces non répertoriées. Ah, malheureusement... C'est des espèces qu'on ne peut pas vendre comme ça en colin ou en lieu ou ce que l'on veut. Malheureusement, pour leur plus grande déconvenue à ces pêcheurs, ces poissons se montrent extrêmement toxiques et mortels. Et tandis que les biologistes ne savent comment interpréter ce phénomène, de plus en plus d'apparitions bizarres surgissent comme cela et sont répertoriées par les gens. C'est la gestation. Une catastrophe sanitaire se prépare car une toxine contamine la chaîne alimentaire à l'échelle planétaire. Et malheureusement, cette toxine est mortelle pour les humains. Les spécialistes de la multinationale Bio Hades font ce qu'ils peuvent pour contenir un phénomène. Mais ce qui préoccupe dans l'immédiat Stéphane, avec sa sœur, eh ben, c'est plutôt son père. Ils sont en train de ranger la maison familiale et parce que le père est devenu trop impotent pour vivre seul et ses enfants se résignent donc à l'emmener dans une maison de retraite. Loin de la maison familiale, isolée de tout, une maison qui n'intéresse plus grand monde puisque les gens préfèrent vivre maintenant dans les grands centres urbains. Seulement, l'alerte sanitaire devient critique au point que le gouvernement lance le plan Castel. Regrouper les populations dans les grands centres urbains et organiser le rationnement. Évidemment, la panique s'installe, vous imaginez. Les hommes prennent les armes pour n'importe quelle raison et devant les pénuries et l'état de siège. Pris dans un mouvement de panique, la femme de Stéphane est tuée sous ses yeux. Par pure bêtise. Ce dernier va récupérer son père pour découvrir que la maison de retraite est complètement à l'abandon. Et à partir de là, eh ben, on a une espèce de road movie dans une situation d'apocalypse biologique allant du Béarn vers Saint-Nazaire. Mais comment faire quand il n'y a pratiquement plus de nourriture, que la nature devient aussi mortelle que les hommes et que l'on traîne une personne âgée qui n'est plus autonome? C'est un voyage vers la folie et la démence qui commence. Alors il y a... une filiation, je veux dire, avec Bruno, c'est le graphisme qui en est relativement proche. Et il y a une horreur de ce qui est décrit qui justement est désamorcée vis-à-vis de ce dessin assez stylisé. Cette horreur qui n'est pas l'accélération de la mutation de la nature, mais de la violence humaine désespérée de découvrir qu'elle devient une espèce en voie de disparition. Bah oui, c'est ça le darwinisme aussi. Des espèces disparaissent et d'autres peuvent s'adapter. On a un peu l'impression de lire les événements originels qui ont précédé Nausicaa de la Vallée du Vent par Miyazaki, tels qu'ils sont décrits justement dans la BD en question. Darwin, le tome 1 s'appelle Castle, c'est de Wuzit, c'est aux éditions Poivre et Sel. Attention, ne vous faites pas piéger, c'est pas franchement pour les gamins, c'est un propos qui est vraiment adulte, mais c'est vraiment intéressant à lire. Et c'est justement de ce côté-là, c'est une série qui, à mon avis, méritera d'être regardée. Darwin, premier tome de cette série Castle de Wuzit aux éditions Poivre et Sel. Bonjour, je suis Deathscritch, je suis animateur radio et ma passion c'est d'emmerder mes collègues co-animateurs en hurlant « Du sport, arrête de fumer, c'est à toi !»
J'ai éteint ma cigarette.
Eh ben, on y va. Tu m'as demandé une ambiance fun et sympa.
Ouais.
Non, non, ami qui régisse un peu FMR, non, non, ce n'est pas vrai. Du sport ne fume pas dans les locaux.
Non, c'est pas vrai.
juste dehors avec la porte ouverte.
Boards of Canada, music has the right
for
children.
Désolé pour les
non-fumeurs. C'est ton fond sonore.
De quoi ? Ouais, d'accord, ok. Avant de parler de top 10.
Alors attends, il a sorti l'équipe.
J'ai sorti l'équipe du jour.
Ah, mais et non, vous savez... non.
Ah, mais attends, vous savez que dans l'équipe du jour, il y a toujours le dessin du jour. Ok.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et là, bien, c'est pas le bon jour parce que c'est Hugo. Mais en fait,
non,
Bernard Chenez.
Non, mais là, j'ai mis le fond sonore pour ta BD, quoi.
Oui, oui, mais Bernard Chenez a arrêté, a pris sa retraite.
Ah
donc,
bon
depuis le début de l'année. Et c'est donc un nouveau dessinateur qui a un style qui est. Bon, là, c'est dommage parce que c'est Hugo, quoi. Qui était le remplaçant déjà de Chenez quand Chenez partait en vacances. Mmh. Mais c'est un nouveau dessinateur qui a pris la suite de Chenez, dont je me rappelle même pas le nom. Hein, mais par contre, c'est pas mal, c'est sympa, j'aime bien le dessin. Et le propos est un petit peu différent de Chenez, donc ça peut le faire. Enfin, en tout cas, on souhaite une bonne retraite à Bernard Chenez et tout.
Mais pourquoi tu n'as pas fait ça en revue de presse
qu'on a vu déjà ça aussi, qu'on a vu aussi officier lors des Stades 2, à la télé.
Avant, il était sur Canal aussi.
Voilà.
Ouais, mais il s'était fait épingler pour certains dessins des fois qui étaient franchement borderline. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait pendant la revue de presse, pendant les news?
Parce que...
Tu viens de t'en apercevoir. Donc en fait, tu lis...
Quand on peut faire une conférence de presse avant...
Tu lis ton journal pendant mes chroniques.
Quand on peut faire une conférence de rédaction avant... On peut se caler, tu vois, mais quand.
Et alors, moi, j'aimais. Enfin, alors, Chenez, c'est vrai qu'il avait un style d'humour plutôt bon enfant, où c'était un peu. Qui convenait à un public familial.
Voilà, ouais. Avec quand même quelques petites piques bien senties. Des fois, c'était bon, vas-y, quoi. Surtout sur les administrations, sur les fédérations, sur les trucs, sur les organismes, on va dire. Hein. Pas sur les personnes en tant que telles, mais bon, sur les conglomérats, là, pas de problème. De temps en temps, il y allait assez bien.
Et tu penses quoi du dessinateur Bouzard qu'il y a dans son foot?
Mais moi j'aime pas du tout.
Moi non plus.
J'accroche pas du tout, c'est marrant.
Non,
c'est
non,
la seule page que je dis pas.
On l'a eu en interview.
Pas. Oui, je sais, mais bon, j'en ai déjà parlé d'ailleurs.
Ouais. Moi des fois j'essaie de lire, hein, mais j'y arrive pas non plus.
Je trouve que maintenant qu'il fait des strips, avant c'était les pleines pages, maintenant qu'il fait des strips, les strips sont plus intéressants.
Oui.
Voilà, bon, bah. Convergence de vue. Convergence de vue qu'on a également sur Top 10.
Être dans un domaine plus délicat, je pense.
Plus intime, dirais-je même.
C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas.
Tout à fait.
C'était obligé.
Donc Correa. Je disais...
Alors toi qui es toujours à la ramasse pour nous pondre les sketchs dont on parle, comment t'as fait pour tomber là-dessus aussi vite?
Oui, bon.
Alors, pourquoi divergence de vue sur Top 10?
Non, convergence
de
vue.
Ah, convergence, d'accord.
Justement, il faut répéter les choses trois fois parce que bon, on oublie vite. J'ai remarqué, enfin bon, ça c'est... on dirait que c'est typique de la nouvelle génération. Top 10, donc, c'est le tome 3 qui s'appelle Retour aux sources. Et je peux tout de suite vous dire que et la couverture et le titre sont trompeurs. Car en fait, sur la couverture, vous reconnaissez la majeure partie héros, des super-héros et héroïnes du 10e commissariat de Néopolis. Hein, donc, Top 10, on rappelle, eh bien, c'est un commissariat dans Néopolis. Néopolis, c'est une ville un petit peu de transit où absolument
tout ce qui
existe dans la galaxie et dans les galaxies arrive.
Attends, tu vas me le passer parce que tu disais qu'on faisait jamais conférence de rédaction, mais c'est pas ce que tu m'as annoncé quand même sur les chroniques.
Ouais, Top 10,
non, tu m'as annoncé.
Alan Moore, Jin Ha et Zandon Cannon.
Oh putain, mais tu peux pas les épeler quand tu le fais par téléphone.
Alors c'est marrant parce que là, parce qu'ami auditeur, faut qu'on vous explique. Xavier, en fait, a écrit sur le conducteur Totem parce qu'il avait compris Totem au téléphone au lieu de Top 10. Top 10.
Ouais, il avait trois démons qui galopaient autour de lui, tu vois, en fait.
Voilà. Ok.
Allez, on t'a interrompu, vas-y, continue.
Ok. Et donc, dans les deux premiers, en fait, qui sont vraiment très très intéressants, eh bien, Alan Moore, comme à son habitude, il va déconstruire un petit peu. Il va prendre un genre, mais le triturer, le torturer, le déstructurer, et l'habiller d'un univers complètement différent, c'est-à-dire le polar avec des super-héros, c'est le cas dans Top 10 en fait, où c'est la vie dans un commissariat et tout. Alors comme on le dit dans la page d'introduction et tout, quand on peut penser à des séries télé comme The Wire ou NYPD Blue, parce que c'est vraiment le quotidien commissariat, on suit les enquêtes et tout, c'est le tout venant day by day, jour par jour. Et dans ce troisième tome, parce qu'il faut savoir que ce sont des écrits, ce sont des bouquins qui sont sortis au début des années 2000, hein, pour lesquels d'ailleurs, pour les premiers top 10, Gina et Alan Moore avaient reçu l'Edgar Award du meilleur, de la meilleure série, enfin je sais pas quoi, dessinée, enfin... ils avaient reçu quelques honneurs, ils ont arrêté bien sûr, ils ont tenté de faire une série, ça a pas trop marché, et dans ce tome top 3 dans ce tome 3 de top 10, eh bien on retrouve les derniers écrits, enfin les dernières collaborations en commun d'Alan Moore et de Gina Alexander Cannon, puisqu'il y a deux dessinateurs, et Cannon. Quelques années plus tard, en 2005-2006, un autre tandem dessinateur scénariste a repris top 10, mais enfin ça a pas duré tellement longtemps, moins d'une saison, hein, donc là ce sont vraiment les derniers, donc ce qu'a fait Alan Moore. Et en fait, si là je vous dis qu'il y a un petit peu tromperie, oui.
La question c'était comment ils ont fait de Tom, Alan Moore et Gina.
Et bien pour les trois.
Ah c'est tout, il y en a pas d'autres.
Les trois, il y en a pas d'autres après. Il y en a pas d'autres après. OK. Ça on pourrait dire bon ben OK, ils font du remplissage, c'est-à-dire ils grattent vraiment tout ce qui a été fait, il y a pas de problème parce qu'il y a pas du tout de continuité par rapport aux deux tomes précédents. Non, pourquoi? Parce que tout simplement bien ça nous explique un petit peu quelle est l'origine, on va dire, de certains personnages. Et en fait, on va apprendre quelle est l'origine du capitaine. Hein, c'est-à-dire Steve Trainor, Jetman, le vieux là que tu vois qui dirige le commissariat. On va apprendre pas les origines de Robin, mais enfin bon, les origines de Smax, Jeff Smax, hein, le grand balèze vachement costaud et tout, qui est invincible.
Oui, celui qui est taciturne.
Ouais, qui est bleu aussi, quoi. Ouais. Et avec Toybox, hein, donc la nana qui a sa petite boîte à jouets.
Mais ça, c'est la nouvelle, ça.
Voilà, c'est la nouvelle. Mais qui vont repartir dans le monde de Jeff Smax. Et donc, on va apprendre quelles sont les origines de Jeff Smax avant qu'il arrive à Neopolis. Et c'est pareil que pour Steven Trainor. Alors ça, c'est la première partie, donc ça s'appelle 49ers retour aux sources, où là on est carrément vraiment au début de Neopolis, juste après la Deuxième Guerre mondiale et tout. Jetman est encore vachement jeune homme, on va dire, hein, et il découvre tout de la vie, quoi. C'est-à-dire lui, il a connu juste le fait d'être un super-héros, mais à l'époque il avait 11-12 ans pendant ses exploits, donc bon, il a pas très bien capté tout ce qui se passe. Là, il rentre dans la vie adulte, et bon, Bon d'accord, ok. Et il commence à, il y a un petit peu d'explication par rapport à ce qu'est Neopolis, pourquoi Neopolis est devenue ce qu'elle est quand on lit les deux premiers tomes. Également dans la deuxième partie qui est super longue, hein, parce que bon bah la première partie les 49ers, ça fait bon on va dire un tiers d'histoire. C'est une très très longue histoire et là on retourne aux origines de Jeff Smax. Et alors là c'est assez rigolo parce que là on est vraiment dans de l'heroic fantasy à fond les manettes, parce qu'en fait c'est dans un monde complètement magique, l'électricité ne fonctionne pas, c'est-à-dire que les jouets par exemple de Toy Box ne fonctionnent pas puisqu'ils sont marchent à pile, mais que là-bas l'électricité ça fonctionne pas, même les trucs à pile, tu vois. Il y a que la magie qui fait fonctionner les trucs, quoi. Il y a des lutins, il y a des elfes, il y a des monstres, et on apprend que Smax était au départ un chasseur de dragons.
Ah d'accord. OK.
Bon. OK, voilà. Et à partir de ça, on va broder une sphère mythologie, on apprend pourquoi il a cette marque là de main sur le torse. Ah ouais, et oui. Et alors là, Alan Moore s'en donne à cœur joie, mais vraiment à cœur joie, parce qu'à un moment donné, ils sont en train de rechercher le dragon, et puis ils tombent sur un magicien, mais tu sais, le magicien avec le chapeau pointu qui dit nous faisons une leçon pratique pour les élèves du château de Poudgras. Avec lui, oui, c'est le seul rescapé, puis t'as un jeune ado avec lunettes et tout. Il dit allez viens trotteur. C'est que les petits. Alors de ce côté-là, allez-y, il y a pas de problème. Alan Moore s'en est donné à cœur joie. C'est vraiment un vrai bonheur. Et bon, il y a également toujours la patte un petit peu malfaisante, un petit peu malséante de Alan Moore en ce qui concerne la sexualité et les sexualités des différents peuples rencontrés. Là aussi, c'est assez pittoresque. On va pas trop rentrer dans le détail. Hein. Au niveau du dessin, ça reste très soft. Hein, y a pas de problème. Mais par contre, au niveau du propos, des fois, ça va quand même assez loin. Mais enfin bon, on peut tout se permettre parce qu'on n'est plus dans le monde réel. On est dans un autre monde, donc c'est pas les mêmes.
Donc on s'en fout. Hein,
ouais. On s'en fout complètement. La partie qui est aussi très très intéressante, et c'est toujours un petit peu ce qu'on ajoute à la fin des cartonnés ou des éditions qui sont un petit peu de luxe, c'est bien entendu quoi, les covers, les variant covers de Gene Ha, de Xander Cannon. Mais là, ce qu'il y a en plus, après toutes les variant covers, il y en a pas mal, hein, il y en a, c'est aussi
oui.
Le carnet de croquis, les esquisses.
Ah ouais.
Des personnages, la création des personnages par Gene Ha avec l'explication
pourquoi ils sont comme ça,
pourquoi on l'a fait comme ça et tout. Mais attends, c'est pas tout, parce que là ça reste encore normal, on l'a déjà vu, c'est sympa et tout, c'est cool. T'as aussi les croquis de Neopolis et tout, les plans d'architectes et tous les trucs pas possibles. Et après, t'as sur la fin, tu as les premiers dessins, les premiers jets avec de côté les annotations en crayon écrites de la main de Gene Ha. En fait, ce sont les premiers jets qu'il envoyait à Alan Moore et où il pose des questions. Est-ce que c'est correct comme ça? Tu veux pas qu'on change ce truc là et tout quoi? Et t'as les annotations dans ces, c'est les documents de travail de Gene Ha avec Alan Moore pendant la fabrication de Top Ten quoi. Et là, bon bah ok, tu te dis ouais c'est pas mal, parce que quand tu regardes les dessins, c'est juste les dessins au départ, c'est-à-dire noir et blanc et tout, tu te dis ouais quand même, d'accord, ok, le mec s'est travaillé, ça y a pas de problème quoi. Bref, c'est vraiment un super bouquin. Puis bon, on n'était pas resté sur un espèce de cliffhanger énorme, de toute façon, à la fin du deuxième tome.
Il y avait une histoire de dieu viking aussi dans le deuxième.
Ouais, au début du deuxième, quoi, avec la baston dans le bar et tout ouais. Ça, quoi. Mais bon, là, c'est pas mal parce que bon, bah, ça nous fallait dans un monde complètement différent. Surtout la partie avec Jeff Smacks et tout. Et la nana à la boîte à jouer. Top 10, donc c'est le tome 3, Retour aux sources. Il est plus épais que les autres, donc il coûte un peu plus cher, quoi. C'est de Alan Moore au scénario, Gene Ha et Xander Cannon au dessin.
Bref Express, dans le monde du super-héros, sachez que donc la suite de Man of Steel, on sait que ça s'appelle Batman vs Superman, on a déjà l'affiche qui est prête, mais la production est retardée à 2016. On a déjà, bien évidemment, on sait déjà qui c'est qui va y jouer, normalement. À savoir, on a l'acteur donc qui va jouer Lex Luthor, entre autres. Mais
oui, Bryan Cranston, si tu cherchais le nom.
Voilà, oui, je suis désolé parce que je suis en train de lire l'article en même temps. Mais surtout, ce que l'on n'avait pas exactement, c'était la décision de Warner qui explique ce retard. To help fully realize vision, afin d'aider les scénaristes à pleinement prendre conscience de le. En fait, vous savez pas si vous allez mettre Wonder Woman, si on va faire un film entre-temps, etc. Bref, c'est le foutoir complet. C'est un amateurisme qui fait plaisir à voir des fois. C'est assez inquiétant. T'avais pas un... Non, parce que Duce, tu vois, il se barre, il te donne aucune info, il te dit « Et là, maintenant, je vais te parler d'un livre de musique, mais je ne sais pas de quel groupe il s'agit. » Donc tu vois, moi pour tout caler, je suis dans la merde la plus totale.
La Patty Force de Devil, ça va être les Stones, non?
Ah ouais, ouais, là tu peux y aller dans les 70s à fond. Et j'ai pas ramené disque des 70s, sinon si tu veux illustrer le truc le plus justement possible.
Je vais essayer de trouver, t'inquiète.
Justement.
Allez,
possible.
On y va. Vas-y, commence.
C'est Led Zepp dans ces trucs-là. Alors, maintenant, dans la foulée et tout, quoi, c'est lourd hein, quand même, quoi. Dans la.
Pourquoi on fait pas un morceau de coupure, là?
Ouais, justement, quoi.
Bah allez. Oui, parce qu'il faut que je trouve quelque chose en rapport avec ce dont il va parler.
Ouais, 70s.
Tu vois, quoi, voilà. Conférence voilà. D'adresse un petit peu avant et tout, comme ça on cale les trucs, et puis là, on n'a pas ce genre de problème, quoi.
Ouais, attends, t'as raison, on fait péter l'équipe, là, un peu.
Tiens. Ouais, je l'ai même pas ouverte, de toute façon, quoi. Merci. En plus, quoi.
Vous écoutez Radio FMR, 12h43, c'est le supplément au week-end. J'y crois pas, j'ai pas les Stones. Je vous jure. À quoi ça sert franchement d'avoir numérisé tous ces disques et se rendre compte tout d'un coup t'as pas les Stones. J'ai l'air un peu con. Allez, les Clash pour le coup, one more time. Alors, Dus, ma oui. foi, on revient comme ça dans les années 70.
Attends, il finit de lire le livre.
Alors, c'est pas mal parce que bon, c'est un bouquin qui parle. C'est le sous-titre. Hein. Le titre, c'est Apathy for the Devil. Et le sous-titre, c'est Les 70s, voyage au cœur des ténèbres. Alors, t'as passé un morceau Clash années 80, début des années 80, et là, c'est un morceau des années 60. 65, 66, si je ne m'abuse.
Oui, pardon, désolé, hein, mais c'est comme
mais
ça.
Mais non,
au
mais
hasard,
c'est pas grave, parce que bon, en fait, ça couvre vraiment un petit peu plus longtemps. Là, bon, mais c'est un parti pris de l'auteur, Nick Kent. Nick Kent, qui c'est? Eh bien, c'est, il fait partie de la, on va dire, la première génération des rock critiques, de ce qu'on a appelé après les rock critiques, les gens reconnus pour la qualité de leurs écrits en ce qui concerne la musique, à mettre au même genre, au même niveau que des gens comme Peter Tosh, comme Nick Tosh, pardon, Peter Tosh.
Oui, ça a rien
Nick
à
Tosh,
voir.
Comme Lester Bangs, bref, tous ces gens-là.
Je crois qu'il écrivait dans le NME, d'ailleurs.
Alors, justement, Nick Kent, lui, a eu la chance de commencer sa carrière journalistique dans le NME, c'est un New Musical Express, qui était le concurrent, qui était le petit jeune qui cherchait à se faire une place dans les années 60 face à l'institution qui était le Melody Maker. Et par la suite, après NME, dans les années 70, il va y avoir un troisième concurrent, parce qu'il faut dire que ce sont des journaux genre format papier, journal, mais qui sont, on va dire, 6 fois, 8 fois plus épais qu'un Libé classique, et qui sortaient chaque semaine. Donc il fallait quand même pisser de la copie,
hein, sur l'actu du business,
sur l'actu du business musical, sur les concerts,
du people, les annonces, du listing, des petites annonces, énormément
que sur la musique, que sur la musique, les petites annonces et tout quoi, les petites annonces de NME ont servi à beaucoup de musiciens à se rencontrer, à former des groupes d'ailleurs, hein, les petites annonces.
C'était bien avant Mythique.
Voilà. Alors donc Nick Kent, lui, bah, il est né un petit peu, on va dire, il est pas né dans le monde de la musique en fait. Ouais. Enfin, il est né dans une famille très austère anglaise et tout, un petit peu juste à côté du Pays de Galles, hein, c'est-à-dire dans le nord-ouest de l'Angleterre. Études classiques et tout. Son papa,
c'est Manchester et tout.
Son
ça,
papa était ingénieur du son, travaillait à la BBC. Son papa était le monsieur qui avait enregistré les derniers commentaires, les dernières mémoires de Winston Churchill. Mais c'était quand même quelqu'un qui était vraiment très très rigoriste et tout ça. Donc c'est pas de son côté là que Nick Kent a hérité son amour de la musique, on peut le dire, du moins pas la musique qu'il a défendue par la suite. Un de ses premiers flashs musicaux, bien sûr, c'est bien sûr la radio, les Beatles, les Stones qui réussit à voir lors d'une de leurs premières tournées dans les années 62-63. Donc, quand il jouait en première partie, mais enfin bon, c'était des lots comme ça de 4 ou 5 groupes qui jouaient une demi-heure maximum chacun, hop, et vas-y, et puis c'était torché, quoi. Donc, les premiers engagements des jeunes groupes pas trop connus, avec une tête d'affiche, bien sûr, toujours. Il commence à écrire dans le début des années 70, donc. Et ce bouquin, se compose de 10 chapitres qui sont en fait les 10 années 70 jusqu'à 74. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a une profession de foi, en ce qui concerne le truc de rock critique. Un petit extrait que je vous lis. Ça arrive en 74, parce que les premières années, bon, il écrit plus ou moins comme ça et tout, quoi, en tant que fan, en tant que ce que tu veux, quoi, pas tellement professionnel. Et c'est en 74 qu'il commence à avoir le flash. Je n'écris pas, je cite, je n'écris pas sur l'idée du rock, je le décris en tant que réalité de chair et de sang, peuplée de gens surréels menant tambour battant des existences tout aussi surréelles. De ce que j'en ai appris, l'écriture rock est avant tout un médium de l'action et n'est jamais plus efficace que si l'auteur se place au cœur exact de cette action, tout en conservant le recul nécessaire pour en appréhender pleinement le potentiel. Le genre offre une vaste galerie de personnages hauts en couleur. Il y a le chanteur et son incommensurable narcissisme pathologique, les guitaristes et leur sempiternel problème de drogue empirant sans cesse, les petites amies un peu sorcières sur les bords, les managers qui gèrent fébrilement l'aspect financier tout en enviant secrètement le succès et le pouvoir d'attraction de leurs poulains, les rodises qui jouent de leur force brute et profitent de la situation, le public hypnotisé à l'égal des enfants de Hamelin, les yeux écarquillés comme plongés dans une extase collective. C'est ce fond d'humanité qu'émerge pour moi la forme. Bon, ben okay. Tu dis, il a commencé. Il faut dire qu'il a quand même fait des études littéraires Oxford, à Cambridge. Enfin, il a fait quelques années. Il était plus intéressant par le versant musical. Alors, il a une vie tout à fait passionnante, ce monsieur. Il est au cœur des 70s, donc il va côtoyer absolument tout le gratin. C'est l'un des seuls journalistes à être resté ami avec et les membres de Led Zeppelin et le manager Peter Grant, ce qui n'était pas une mince affaire parce que plus d'un rock critique s'est fait malmener, on va dire. Il a eu son lot de cassage de gueule aussi, quoi. Cassage de gueule, il sait pas trop, dans les années 70, et cassage de gueule au début, vers la fin des années 70, par des potes qui étaient très proches de Malcolm McLaren et de la bande de Sid Vicious et tout, quoi. Sid Vicious qu'il a connu intimement car il partageait pas leur seringue mais presque mais leur héroïne. Il faut dire qu'il a aussi rencontré dans les années 70, au début des années 70, une jeune fille américaine qui était très haute en couleur et qui jurait comme un chartier et tout, quoi, qui jouait de la guitare et qui voulait faire carrière. Et il est sorti avec elle pendant quelques années. Ils ont partagé leur dope aussi, pas de problème. Ils sont descendus pratiquement assez bas. Et cette nana l'a largué et a commencé à jouer dans un groupe qui s'appelait les Pretenders. C'était Chrissy Hynde. Voilà, pour situer un petit peu le bonhomme. Bref, mais ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est qu'on a absolument une vision globale de la musique qui s'est passée durant les années 70, que ce soit surtout la musique anglo-saxonne, bien sûr, hein, que ce soit les Anglais ou les Américains, les autres, bah, c'est vraiment la portion congrue, laisse tomber. Encore que Nick Kent a fait quelques stages à Paris, a habité quelques temps à Paris, donc a pu se faire une autre idée de l'extérieur, de ce qui se passait dans le monde du showbiz et du rockbiz surtout. Mais c'est un bouquin qui est vraiment très très recommandable pour les gens qui ont envie de savoir, qui s'intéressent à l'histoire un petit peu, des groupes de rock'n'roll, des grosses légendes et tout, parce que bon bah lui il était au cœur, c'est ce que j'ai dit dans l'extrait que j'ai cité, lui il voulait être au cœur, c'est-à-dire qu'il partageait la bouffe et tout absolument quoi avec les gens du groupe, il suivait les tournées en tant que embedded, quoi, comme on dit maintenant, quoi, hein, c'est-à-dire embarqué. Mais bon, il avait également une autre relation, une relation plus personnelle, on va dire, avec les musicos, que ce soit les Stones, les Zepp, enfin tous les grands du style, Lennon, enfin bon. Et de ce côté-là, c'est quand même très 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 intéressant, parce qu'il y a également ce qu'il décrit, mais sans acrimonie, sans vouloir être méchant ou mesquin, hein, c'est également bah, le côté un petit peu sombre, on va dire, hein, du rock, les à côté qui sont pas franchement sympathiques, hein, c'est clair quoi. Et comme il le dit très bien, hein, mais bon, c'est le lot de beaucoup de gens qui ont connu ces années-là. Hein. Bon bah ok quoi, on a eu notre lot de suicides, de morts par overdose, de gens qui sont dans les HP, qui n'en sortiront jamais. Bref quoi, ok quoi, c'est une période quand même qui a été assez marquante pour pas mal de gens. Et là, Nick Kent le décrit assez bien. Apathie for the Devil. Alors en plus, Apathie for the Devil, bien entendu, un clin d'œil au titre des Stones, Sympathy for the Devil. Et en fait, c'est je vous laisse découvrir dans le bouquin comment est-ce que ça arrive, cette citation à Apathy for the Devil, parce que c'est une citation qui est également faite par un membre des Stones.
D'accord.
Mais bien plus tard, quoi.
Oula, il y a eu des inversions de manette, excusez-moi.
Moi, je ne suis pas Morgan. Alors, aujourd'hui, donc c'est une chronique surprise. Alors, si je vous dis le thème du film dont je vais parler, vous allez comprendre de suite. Si je vous parle de course hippique.
Turf.
Alors, il faut savoir que les habitués de cette émission savent que tous les mois de janvier, nous dégustons une galette. Et le perdant, celui qui a la fève, s'engage à chroniquer un film qui est dans une liste noire. Et donc, le mot a été balancé par du sport. Nous allons parler de turf, puisqu'il y a un an, quasiment jour pour jour, je m'étais engagé à aller chroniquer ce film. Et bien, il n'est jamais trop tard. Puisque un an après...
Il est passé à Canal hier soir.
Exactement. Voilà.
Cool.
Ok, ok.
Alors, c'est la première fois qu'on fait une chronique a posteriori d'un film qui est passé la veille, donc c'est bien. Comme ça, ceux qui ont vu le film, ils pourront se confronter, à mon avis. Ils pourront même tweeter, réagir, pour savoir si...
N'hésitez pas, merci.
Voilà. Donc, Turf, de notre... notre grand trublion du cinéma français, Fabien Antoniente. Donc, Fabien Antoniente, c'est à lui qu'on doit Jet Set, les
Camping aussi, non?
Camping, les magnifiques, le magnifique remake français de Absolutely Fabulous.
Non. Eh si.
Eh oui.
Avec, non pas Mireille Mathieu, mais c'était, je sais plus.
Avec Josen Balasco et Nathalie Baye.
Oui, mais il y a,
Il y a Marie Gillin.
Oh, il y a plein.
Chantal Goya.
Chantal Goya, oui.
Et Julie Gayet.
Et alors?
Salaud!
Et donc.
Epic win du sport!
Et c'est lui qui avait fait aussi 3-0.
Oui.
Voilà. Alors, Fabien Antoniente, cette fois-ci.
Ah, ben non, attends, 3-0. Non, je confonds avec 1-0, qui était un film assez intéressant.
Non, 3-0, c'est Lanvin et Laurent Deutsch avec le PSG qui est en finale de la Champions League.
Ouais.
Déjà, le concept était merdique déjà à la base. Alors. Donc au casting, Edouard Baird. Alors c'est le casting les enfants de la télé, bien sûr. Donc Edouard Baird, Alain Chabat, Gérard Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Sergi Lopez qui est excellent. Sergi Lopez, Elena Noguera, Sergi Lopez qui fait un entraîneur de canasson qui est proche des chevaux, on va dire. Elena Noguera, Vaina Diocante, Marthe Villalonga, mais également Valérie Zetoun, Pierre Ménès, Roland Courbis. Bon voilà.
Et aussi... Il manque Arthur,
il y a aussi Xavier Beauvois, Christine Ariali, bon là c'est le... On... Allez, la Jet Set française, c'est open bar, venez, on va caser un maximum de têtes connues. Alors l'histoire, c'est quatre potes, donc le grec, incarné par Chabat, un ostéopathe volage, Fifi qui vit chez sa mère, Fortuné, donc Lucien Jean-Baptiste, le comptable, Antillet, et Freddy, Edouard Baird, donc compositeur, pianiste et flambeur, qui vit d'amour et d'eau fraîche, qui se fréquente depuis des années dans un PMU, des années après avoir formé le carré magique d'une petite équipe de foot amateur qui avait été éliminée au penalty contre les Girondins de Bordeaux dans les années 80. Un jour, justement, un plan foireux leur tombe dessus. Monsieur Paul, connu comme le loup blanc dans le milieu des courses hippiques incarné par Gérard Depardieu, et surveillé également par la police des jeux au passage, propose à Edouard Baird d'acheter un vieux canasson qui tire la langue en lui promettant que c'est un futur crack. Edouard Baird qui, donc, obéissant au fameux adage des turfistes qui disent, je crois que c'est malheur un jour, gain le lendemain, enfin oui, veille, voilà. Donc en fait, persuade les trois comparses pieds nickelés de chacun acheter une partie du cheval, donc chacun une patte. Et donc ils deviennent les heureux et hasardeux propriétaires de ce fameux cheval qui s'appelle Torpille. Donc, persuadé qu'il s'agit d'une galopeuse, pendant qu'il l'inscrive à des courses de chevaux, mais elle veut pas avancer. Puis jusqu'au jour où Sergi Lopez, un jour où il se confie beaucoup au cheval, lors d'une, voilà, sous la pluie, un soir, parce qu'il parle beaucoup, Sergi Lopez, et puis il s'aperçoit que c'est une sauteuse. Donc du coup, il l'inscrive à des courses hippiques avec du saut d'obstacle, et puis, miracle, il commence à avoir du succès. Bienvenue, maintenant ils sont bombardés dans le milieu des propriétaires de chevaux de course. Avec, et là c'est le Toniente qui touch, qui arrive, puisque c'est Jet Set, Monte Carlo, ouais. Avec, voilà. Alors t'imagines un casting d'acteurs français qui sont lâchés, qui en font des tonnes, complètement en roue libre. Ils essaient de retrouver la tambouille d'Yves Robert, période diptyque, un éléphant se trompe énormément et nous irons tous au paradis, jusqu'à reprendre la voix off de Rochefort derrière. Donc là, c'est Edouard Baird qui fait la voix off. Alors c'est quatre amis, un peu losers, à qui il arrive des trucs, voilà, l'un qui est proche de sa mère, comme Bedos, hein. Sauf que là, ça, la mayonnaise prend pas trop. Le scénario cousu de fil blanc, alors c'est vachement intéressant. Enfin, le début est plus intéressant quand ils sont des losers, un peu PMU, qui vont au PMU, qui vont de déception en déception. Il y a Shaba qui joue la date de naissance de je sais plus qui, et puis il donne son numéro à une fille au dos du ticket gagnant. Donc tu vois, le gros méli-mélo, voilà. Et puis après, une fois que le cheval commence à avoir de la réussite, bah, il y a le flambi qui explose, et puis voilà. Tiens, le film va finir comme ça. Et effectivement, voilà. Donc bon, c'est même pas, on pourrait même pas dire c'est la bonne comédie du dimanche soir. C'est vraiment le film entre guillemets où les acteurs payent des impôts.
TF1 remplit sa grille du lundi.
Ah non, le dimanche soir, parce qu'il y a du casting béton.
Ah oui,
là,
oui.
Ça peut faire
ça, c'est le film du dimanche soir. Ça.
Ah oui, là, attends, ça peut faire de la part d'audience, mais finger in the nose.
À l'aise.
Voilà, donc moi, à part Sergi Lopez, j'ai rien trouvé à sauver. Il filme des courses au ralenti quand le cheval est censé gagner. Il n'y a pas de... Voilà, on aurait pu aller un peu plus loin, où il y a les quatre amis qui pètent les plombs et qui deviennent complètement ingérables. Vraiment aller dans le délire, mais vraiment très, 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 très loin. Il n'y a pas vraiment d'envolée de mise en scène. Il y a une scène qui est assez drôle, puisque c'est le premier contact entre Sergi Lopez et le cheval, où c'est une séquence, mais interminable, où il n'arrête pas de toucher le trapèze du cheval, et il parle en espagnol, et il n'arrête pas de faire l'ascenseur derrière le cheval, et il y a les quatre branquignoles qui sont en train de le regarder, mais ça dure vachement longtemps, cette séquence. Puis là, tu te dis, ah, mais tu sais, il y a un truc, peut-être la comédie, elle commence à aller dans des directions un peu nonsensiques, un peu presque surréalistes. Bon, en fait, non, c'était juste, c'est, on part dans cette direction. Ah, ben non, on va l'abandonner, on va aller dans du plus, du damé, tu vois, voilà, du classique. Bon, Turf, voilà, c'était la punition puisque j'avais eu la fève. Ben écoutez, j'ai été sérieux jusqu'au bout. Voilà, bon. Hein. Fabien Otoniente, Turf.
Une merveille de l'exception culturelle française réalisée l'année dernière par... j'ai oublié qui.
Fabien Otoniente.
Voilà, avec des acteurs vachement pas connus, mais en tout cas que vous allez voir dans votre cinéma le plus proche, avec bien évidemment d'abord les actualités pâtées et le petit film surprise au milieu.
Alors, est-ce que j'ai mon micro ouvert toujours? Oui. Alors, Morgan devait apporter la galette aujourd'hui, mais apparemment, ouais. Il est pas là.
Il est resté bloqué à New York.
Et voilà.
Bah bon, de toute façon, on fera ça la semaine prochaine. Excusez-moi, j'ai balancé trop tôt. Je voulais balancer la fin du morceau, donc du coup, trop tard, j'ai ma playlist qui a disparu. Donc, on y va.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Et on s'en sort toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Ah bah oui, quand on chronique des films de merde, ça va plus vite, hein, du sport. Ouais.
Allez, go.
Eh ben, je vais pas dire semaine de merde, mais bon.
Ah ben toi aussi. Ah ben.
Attends. Si M6 vient de déprogrammer la série Blue Blood, parce qu'ils se sont rendus compte que programmer une série avec Tom Selleck le samedi soir par paquet de 5 épisodes inédits par soir, ça ne ramène pas d'audience. Donc ce soir on a NCIS.
Ouais non, mais surtout qu'on avait déjà vu la série sur une autre chaîne.
Oui non, toi oui, mais moi bon. J'aime bien les séries
c'est
comme
ça,
ça
truc,
de
quoi,
droite, un petit peu moraliste, avec la poule au pot.
Tu vois, c'est un peu le défaut, enfin de moins en moins, mais enfin ça arrive quand même de temps en temps de tomber sur une petite perle qui est diffusée sur une chaîne satellite par un grand groupe et qui réussit pas mal. Les grands groupes qui achètent des tombereaux de séries quoi lors des différents marchés. De la télé un petit peu partout dans le monde et puis qui sont obligés de caser leur programme.
Elle est fraîche, quand... il y a Lucy Liu dedans, elle est fraîche.
Quand c'est des séries qui sont un peu douteuses, qui sont un petit peu borderline, on va dire, on dit oh ouais, bon, on va filer ça à une chaîne satellite qui va te le diffuser en deuxième ou troisième partie de soirée, comme ça, ça fait de mal à personne. Et quand on se rend compte de temps en temps que il y a un petit succès d'estime, voire un petit succès d'audience, on se dit ah ouais, bon, on va programmer ça en prime time, c'est super trop cool et tout, quoi, c'est génial. Des fois ça marche, mais des fois ça marche pas, quoi. Bon, faut dire que Blue Bloods est une série intéressante et sympathique. Il y a Tom Selleck dedans, mais il n'y a pas que lui.
Elle a une morale très à droite, mais là où elle est intéressante, c'est
que c'est une famille. Il y a Donnie Wahlberg, il y a tout un pas mal d'acteurs qui sont vraiment très très bien. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même très très ricain.
Très républicain.
Très républicain, on va dire.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est la construction, puisque donc il y a le père qui est préfet de police, l'un des fils qui est enquêteur.
Bah, Donnie Wahlberg.
Un petit fils qui est un petit jeune.
La belle fille qui est également flic.
La fille, pardon, qui est procureur. Et tout ce monde se retrouve le dimanche parce que c'est une famille.
Au repas de famille.
Irlandaise, le repas de famille, repas traditionnel. Et c'est assez sympa, quoi. Il y a aussi quand même des petits pics sur. Samedi dernier, il y a eu une pique sur la privatisation d'une partie de la police, justement. Hein.
Ouais, mais le problème, c'est que, bon, justement, quoi, cette scène qui est vraiment pratiquement la scène fétiche de la série où on s'explique les trucs, où on dédramatise, où on peut discuter tranquille et tout, quoi. Comme dans d'autres séries, hein, ça arrive aussi assez souvent, quoi. Un petit peu d'explication. Et là, bon, on se rend compte que, bon, c'est un petit peu light, que ça évolue pas trop, que, ça tombe toujours plus ou moins à plat, ça n'apporte pas trop grand chose, quoi. C'est ça. Parce que, bon, tout le monde reste sur ses positions à la fin. Il n'y a pas tellement de... C'est pour ça que c'est pas une série qui est tellement, tellement intéressante. Ça se laisse regarder, c'est quand même très, très bien fait.
Je vais apprendre à Thomas parce que là, il a un nouveau téléphone et c'est pas un Apple, donc il panique un peu. Je vais te montrer l'écriture sweep, après tu vas
Non, mais c'est bon, j'y suis, mais en fait, j'oublie le que je peux avoir ce réflexe-là, en fait.
Mais c'est étrange, franchement, il m'a fallu un mois. Donc, tu peux pas comprendre ces trucs avec des écrans plats.
Non, je m'en fous.
Toi, t'as un téléphone à écran cathodique, donc c'est normal.
Alors, ce soir, une soirée pizza, popcorn, bière sur RTL 9.
Voilà qui est intéressant, vas-y.
20h40, chasse à l'homme de John Woo.
Ah bah oui.
Avec Yancy Butler, entre autres, et JCVD, bien sûr.
Et Arnold Vosloo. Et Lance Henriksen.
Oui. Et à 22h30, Punisher de Jonathan Hensley, celui avec Thomas Jane.
Thomas Jane, oui, c'est l'avant-dernier, donc.
Voilà, et John Travolta qui joue le rôle du méchant, quoi. Il faudra un jour qu'on fasse une émission spéciale pour savoir quel était le plus mauvais méchant interprété par John Travolta, parce qu'il en a fait un bataillon de mauvais méchants.
Ah non, mais hors concours, il y a Battlefield Earth.
Oui, non, mais justement, quoi.
Si on compte pas
Battlefield Earth, quoi.
Tu veux dire le film où ils mettent le trépied de la caméra de Traviole
avec des filtres couleurs, et qu'ils se cognent la tête et disent putain de plafond.
Voilà, bon, ça c'est RTL 9, c'est ce soir. Sinon, sur Action, il y a un petit film qui doit être un DTD certainement, qui a l'air assez intéressant, Manhattan Samurai de Wayne Kennedy, avec Park Ho Sung, Robin Paul et Peter Green, que des acteurs vachement connus. Top Moumout. Demain, alors là, on remonte un petit peu dans la qualité, c'est sur
Donc
Arte.
Ils font jouer un acteur coréen, un samouraï, c'est bien.
Ouais, surtout à Manhattan. Surtout à Manhattan, en plus.
Manhattan Samouraï, pas en coréen, c'est excellent. Ouais.
Demain, sur Arte, excellent western à 20h45.
On a une voisine coréenne au-dessus, à mon avis, on va la réveiller.
Ah oui, mince.
Alors donc, Arte, demain soir, 20h45, l'homme des vallées perdues. En fait, le titre original, c'est Shane, c'est-à-dire le prénom du héros, Alan Ladd. Et c'est réalisé par George Stevens en 53. George Stevens mort en 1976. Il y a exactement 110 ans, en 1904. C'est l'homme qui a fait Géant aussi, quelques années plus tard, le film avec James Dean et toute la bande, là, Rock Hudson. C'est un bon faiseur, on va dire, quoi, mais qui a pas fait vraiment de chef-d'œuvre, si ce n'est Géant, à la limite, quoi. Mais l'homme des vallées perdues est quand même un petit peu à part dans sa filmographie, bien teintée de western, parce que, dans celui-là, ça dépote pas mal, c'est un petit peu violent, avec Alan Ladd, donc, un type qui arrive comme ça, quoi, qui est un petit peu paumé, et qui va se retrouver hébergé par un fermier, sa femme, les enfants et tout ça, quoi, et il se rend compte qu'il y a la loi qui menace le fermier. L'histoire du western classique, on va dire, mais bon, quand on sait que le méchant, c'est Jack Palance, ça peut poser des problèmes, et qu'en plus, il y a toujours la distribution traditionnelle des westerns, les bonnes gueules burinées, Van Heflin, Ben Johnson. Donc ça le fait à fond les manettes. C'est demain soir sur Arte à 20h45. Sinon sur France 4, demain soir également un western Alors, moi j'aime bien ce western parce que il y a très peu de gens qui aiment ce film. Je sais pas pourquoi, parce qu'il est vraiment très très bien. Il était une fois la Révolution.
Ah non, il est excellent.
De Sergio Leone. Mais beaucoup de gens le préfèrent. Il était une fois dans l'Ouest, voire il était une fois en Amérique, hein, qu'il a tourné dans les années 80.
Qui n'est pas un western, mais.
Qui n'est pas un western, quoi. Mais enfin, manque un petit peu le traitement western, on va dire quand même, quoi. Et celui-là est quand même vraiment très très bien parce que c'est le film où il y a plus d'humour dedans, quoi.
Mais oui, en plus, il y a plein de trouvailles, des infographies qui sont par-dessus l'image.
Ouais.
James Coburn, excellentissime.
Il s'est fait plaisir. Il était une fois dans l'Ouest, il reste très rigoureux. Ouais, il a un style. Et il va le maintenir tout au long des 3h30 que dure il était une fois dans l'Ouest. Alors que là, il y a des fois, ça part un peu porte-à-voix, comme ça, tu te dis, mais où est-ce qu'il veut aller? Et puis c'est pas mal, il raccroche les wagons à chaque fois, c'est vraiment très très intéressant comme film. Sinon, demain soir, sur FX également, bien, pour découvrir un petit peu les débuts du cinéma d'horreur américain, le monstre de Londres de Stuart Walker.
Ah, il est pas trop mal en plus.
1935, donc ouais. Stuart Walker qui a d'abord bossé pour le théâtre, puis qui a été un réalisateur tout-terrain pour la Paramount. Et là, c'est pour Universal
oui.
Et c'est un des premiers films de loup-garou de la Universal. Donc avec Henry Hull, Warner Holland et Valérie Hobson.
Petite pause peut-être pour expliquer qu'à l'époque les studios américains se spécialisaient et à l'époque la Warner faisait plutôt des histoires de gangsters et la Universal se réservait plutôt l'horreur. Après il y a eu d'autres distributions et Universal United Artists était la compagnie qui était montée par Charlie Chaplin. Donc chacune avait leur et chacune avait plus ou moins leur spécialité à l'époque de studio.
Pardon.
Allez, ça c'est donc sur FX demain soir à 20h50, le monstre de Londres. Lundi sur Arte encore, Western, La Rivière Rouge, c'est des gros là, hein, là c'est un gros classique hein, quand même de War Horse, avec la rencontre Monty Clift, John Wayne, mais également avec Walter Brennan, John Ireland et Joanne Drew, suivi de Fog de Carpenter, qui est le film peut-être un des moins western de la filmographie de Carpenter. Quand
oui, parce qu'il est tellement.
Mais la météo est idéale. Hein. Là, on a une semaine assez brumeuse. Donc, impeccable.
Non, mais ça, c'est un bon exercice de style à montrer dans les écoles de cinéma ou comment.
Attention, derrière toi, le brouillard se rapproche.
Voilà.
C'est quand même la scène la plus drôle que je connaisse dans un Carpenter.
Ouais, mais en plus, pour la petite histoire, Carpenter avait tourné le film. Il était en train d'arranger le film au montage et aux effets. Et en fait, il explique dans les bouquins. Il a eu le courage d'aller voir les producteurs et il a dit bon voilà le film fonctionne pas, alors soit on le sort comme ça et puis on perd plein de pognon, soit on retourne, on refait les effets sonores, on refait les effets et on retourne certaines scènes parce que sinon on va pas s'en sortir. Il avait fait du travail de merde et après il a retourné et ça a donné Fog qui est quand même un film vachement bien foutu tenu
bien sûr.
Après en plus avec un casting t'as Janet Leigh et Jamie Lee Curtis enfin la mère et la fille aussi dans le même film qui est pas mal aussi.
Ouais et puis bon ouais, il sortait du demi-succès de Halloween aussi quoi, c'est ça aussi hein.
Oui.
Donc il était un petit peu attendu au tournant.
C'était seulement son troisième film.
Alors lundi là c'est un petit peu plus dispensable, enfin bon c'est histoire de rigoler un bon coup sur Sci-Fi lundi à 20h45, Mandragore de Trip Reed avec Max Martini, Betsy Russell et Benito Martinez, c'est Capitaine Alvarez dans The Shield, le boss de Michael Chiklis. Et là bon mais ok quoi, ils cherchent un couteau sacré dans la jungle mais ils vont tomber sur une créature mi-plante mi-animal quoi, donc Mandragore quoi, tu vois, tout simplement quoi. On préférera plutôt lundi sur Polar à 20h50 Ahmet, le film de Wenders Wim de son prénom en 82 avec entre autres Peter Boyle et surtout Frédéric Forrest qui interprète le rôle de Dashiell Hammett, avec une espèce de mise en abîme de Dashiell Hammett qui se retrouve parce qu'il a l'écrivain qui se retrouve mêlé à une histoire de meurtre, à une histoire de polar et tout, alors que c'est lui normalement qui écrit les histoires. Enfin bon, c'est très bien foutu, c'est un excellent hommage hein, de Wenders à Hammett et pratiquement un de ses derniers bons films, on va dire Wenders quoi. Bon. Non, c'est trop méchant quoi. Allez.
Ouais, là, franchement, je te permets.
On est méchant. Bon, on est méchant dans l'émission.
FX vous propose lundi toujours à 20h50 Paprika, de film d'animation japonais de Satoshi Kon.
Regretté.
En 2006. Donc,
excellent, ouais.
Dont tu avais parlé justement à l'occasion de son décès, quoi. Tu avais fait un sujet assez intéressant dessus.
Oui, grosse plongée dans l'univers des rêves, vraiment.
Mardi sur TF1, c'est la seule série intéressante de la semaine et ça vaut le coup, c'est Person of Interest sur TF1, la saison 2 inédite, donc qui démarre le mardi prochain sur TF1 à 20h50. Alors, c'était assez sympathique de nous remettre justement les deux derniers épisodes de mardi dernier pour se remettre dans le bain, parce que bon, c'est vrai que c'est une série dont il faut suivre un petit peu le fil quand même, surtout en ce qui concerne le concept que certains ont jugé fumeux de la machine. C'est-à-dire la machine qui surveille, qui va deviner avant qu'un crime se commette, qui a été créé pour justement prévenir les attaques terroristes. Donc hein, c'est un peu comme la NSA, sauf que ça marche vachement mieux.
Mais qui te dit que ça ne marche pas, la NSA, franchement?
Et donc en fait, hein, comme c'est l'un des deux protagonistes qui s'occupe de la machine, qui a récupéré le fonctionnement de la machine, ils s'en servent avec Chris, qui est interprété par Jim Caviezel, pour prévenir des situations. Attention, il va arriver quelque chose. On sait pas quoi, on sait pas comment, mais ok, ça va arriver. Et donc Chris, qui est un ancien navicile, un mec rompu à toutes les méthodes de combat, il connaît le fonctionnement de toutes les armes, il y a pas de problème. Et il est très efficace, il est pas mal, hein, vraiment au combat, Jim Caviezel. Je connaissais pas comme ça dans ce registre de cinéma d'action à fond les mallettes. Pourtant, c'est assez impressionnant les scènes d'action qu'il y a dans les épisodes.
Mais il avait déjà
c'est très très bien foutu quand même, quoi.
Il avait déjà tourné dans la ligne rouge de Malick, mais oui, c'était pas vraiment le même registre. C'est un film de guerre, mais plus contemplatif.
Là, il y a arts martiaux et tout le bordel. Ouais. Alors bon, et puis ça dépote, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu violent quand même, mais c'est quand même vraiment très très bien foutu. C'est, je le rappelle, j'avais présenté cette série quand elle était sortie, écrit par un certain Jonathan Nolan, le frère de l'autre. Donc on peut dire que bon bah il y a du boulot derrière. C'est vrai que c'est quand même assez touffu, c'est très intéressant quand même. Ceux qui vont dénigrer la série vont dire ouais, on joue toujours sur le registre du complot, sur les puissances occultes qui sont au-dessus de nous mais qu'on peut pas contrôler. De toute façon, nous ne sommes que des grains de poussière dans l'univers, donc ça sert à rien, même si on s'agite un peu plus et tout, quoi. Ça ne sera qu'un épiphénomène. Mais c'est vraiment très très bien foutu, c'est tiré au cordeau. C'est justement ça qui est très intéressant. Ça pourrait partir en cacahuète, mais pour l'instant, bah, ça ne part pas en cacahuète à la fin de cette saison 1, avec en plus le cliffhanger, puisque bon, bah, le type qui est avec Jim Caviezel se fait enlever. Et se fait enlever pour une histoire de sombre de vengeance. Bah oui, qui est à l'origine de la machine. C'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Donc, ça sera mardi sur TF1 à partir de 20h50. Person of Interest, les deux premiers épisodes de cette deuxième saison qui en compte 22. Ciné Plus Classique vous propose encore un excellent western d'un inconnu, mais qui a fait toute sa carrière dans le western. Il n'a fait que ça. Hein, c'était un yes man des studios. Et puis bon, vas-y. Alors lui, il a tourné tous les personnages classiques du western américain, Opalong Cassidy, Lone Ranger, Roy Rogers, il les a tous tournés. Il connaît tout, quoi. Donc, et là, bah, il nous fait un western qui est un petit peu dur quand même. Alors, comme ne le traduit pas le titre français Amour, Fleur Sauvage.
Oh là là!
La traduction française du titre Shotgun. Un peu pas trop explicite, mais quand même, dans lequel Sterling Hayden, bien qui est l'adjoint du shérif qui s'est fait descendre par les hors-la-loi, ben va se mettre à la poursuite de ces hors-la-loi pour se venger. Et ça va être très très trash, assez trash quand même, surtout pour l'époque, hein. Le film date des années 50, 1955 également. La part féminine est tenue par Yvonne De Carlo, et on a également Guy Prescott. C'est sur Ciné Plus Classique mardi à 20h45. Sinon, sur Action mardi, il y a également Infernal Affairs 2, vu que mardi dernier vous avez loupé le 1. Donc vous pouvez voir le 2 quand même sans voir le 1, c'est quand même compréhensible.
Le 2, je crois que c'est Espace Avant, non? C'est
ouais.
Ça
ouais.
Ah oui, parce que forcément, ce qui se passe dans le 1, on peut pas faire une suite, quoi.
Yes.
Non spoil, non spoil.
Mercredi. Merci. Mercredi sur Arte à 20h50, Pogno sur la falaise de Miyazaki.
Pogno,
oh bah
Pogno,
ouais,
Pogno,
allez, vas-y, Pogno, pas de problème. Et sur D17, ah Pogno, oui,
Pogno, Pogno.
Un petit spécial Seagal avec à 20h50, Explosion imminente d'Albert Pyun, Steven Seagal avec Dennis Hopper, Tom Sizemore, Nas. Tout ça pour aller dans une prison.
Dennis Hopper, Nas.
Ouais, non, mais c'est.
Non, le serveur. Non,
alors,
Thomas,
Steven
non.
Seagal, il est flic. Nas, il est spécialiste en explosifs, et avec les autres, ils vont aller dans une prison parce qu'il y a une émeute et puis qu'il y a des terroristes qui ont pris le contrôle de la prison. Alors ça, c'est dans Explosion imminente, donc à 20h50 sur D17 mercredi prochain, à 22h30, tout juste après Explosion imminente, c'est Ultime Vengeance de Michael Oblowitz avec Steven Seagal et Corey Johnson, entre autres, dans lequel il est architecte. Steven Seagal. Ouais, quand même.
Ah ben, très
merde,
bien.
Merde.
Architecte.
Ou alors, sur 13ème rue, le même soir, c'est-à-dire mercredi, hein, à 20h45, un Dangerous Man. Alors, celui-là, je vous le mets pratiquement chaque semaine. Le film de Kenny ou Waxman, dans lequel c'est un mec qui sort de prison au bout de 15 ans et puis il veut se venger parce que la mafia, elle a, bah, elle a pas été très gentille. Voilà. Donc. C'est tout. Ça, c'est sur 13ème rue. Mercredi encore sur Sci-Fi à 20h45, The Last Winter, un film de Larry Fessenden avec Ron Perlman, James Legros et Connie Britton. Laissez tomber, c'est pas la peine. Je vous le dis franchement.
C'est pas bien.
C'était bien la peine de le signaler.
Non, mais bon, c'est jamais. Ciné Plus Premier, mercredi prochain, on propose John Carter. C'est la première diffusion sur Ciné Plus Premier, donc, de ce film d'Andrew Stanton avec Taylor Kitsch, William Dafoe, Dominique West, enfin bon, casting, excellente histoire. Moi, je trouve, moi, j'ai bien aimé. Hein. Même en 3D, j'ai trouvé au cinéma que là, la 3D était bien employée pour une fois. Superbe, magnifique, pas trop. Et c'est assez rigolo quand même. C'est con que le film ait fait un flop. Déjà, c'est con que le film ait coûté aussi cher pour faire un flop parce que j'aurais bien aimé voir la suite de ces histoires, nettement plus intéressantes que Les Pirates des Caraïbes, à mon avis. Enfin bon.
C'est pas dur.
OCS Choc vous propose toujours mercredi prochain. À 20h40, Avalanche Sharks de Scott Wheeler, Les Dents de la Neige, avec la fille de Hulk, Brooke Hogan. Eh ouais, comme quoi. Hein. Ça, c'est sur OCS Shop, donc mercredi prochain à 20h40. Ou alors, un vieux classique de Lee Wistig sur la chaîne Action, Navy Seals. Tu te rappelles quand on était jeunes avec Michael Biehn, Charlie Sheen, Bill Paxton, les vrais Navy Seals.
Magnifique. Ah, les vrais. Voilà, hyper réaliste.
Exactement.
Rien à voir avec ce film que j'ai chroniqué il y a deux semaines.
Justement, j'ai pensé à toi. Ouais. J'ai pensé à toi, je me suis dit, je vais le mettre, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, jeudi sur Arte, à 22h20, Easy Money, Stockholm Noir, un film suédois de Daniel Espinosa avec Joel Kinnaman ou Mathias Bodin. Ou comme quoi, si t'es un jeune étudiant, ne finance surtout pas tes études avec le trafic de cocaïne, ça peut mal tourner.
Oui, wow. Pareil.
Voilà.
Même si tu fais droit ou même si tu fais chimie orga, non.
Voilà. Alors sur RTL9, c'est à 20h40, Serenity de Joss Whedon. Ou alors, tu conduis un vaisseau, surtout assure-toi que tout l'équipage est derrière toi.
Et il n'y a pas que ça, il y a fais gaffe, ne prends pas la première autostoppeuse venue, voilà, même ça... si elle est mignonne.
Exactement. Sur 13ème rue.
Ah, attends, je tiens juste à signaler que sur le tweet, sur le compte Twitter Nathan Fillion,
oui, j'ai vu.
Il y a une fille, il y a une fan de la série qui s'est fait tatouer justement. Le Serenity en couleur, mais c'est vraiment un résultat qui est magnifique. Quoi. Alors,
j'ai vu passer une image où la nana elle a fait un travail de typographie sur.
Oui, avec
à l'envers et à l'endroit, ça fait Nathan à l'endroit et Fillion à l'envers.
C'est pas mal. Mais il se passe beaucoup de choses. Son compte Twitter est assez fun à lire si vous comprenez l'anglais, bien sûr.
Alors, toujours jeudi, après Sérénité, 13ème rue propose Trou de Justice, la série des Steven Seagal capitaine de la police.
J'ai pas compris pourquoi il fait ça à chaque fois. Pourquoi tu fais ça en fait ?
Steven Seagal.
Et j'ai cru que c'était un truc crypté de Canal parce que.
Ouais, non. Alors donc, et celui-là s'appelle, cet épisode s'appelle.
Je vais la comprendre !
Argent sale. Sur Sci-Fi à 20h45, toujours jeudi prochain, Arctic Predator de Victor Garcia avec Herbie Hago, Lucy Brown et Dean Cain.
Laisse tomber,
c'est pas la peine. Il faut bien qu'il gagne un peu d'argent. Sinon, vendredi, tout le monde sera devant des 17 à 20h50, bien sûr, les nouveaux chevaliers du Zodiac. Quatre épisodes donc sur la nouvelle série qui en compte 26.
D17.
Thomas le note.
D17 les gars, vendredi prochain.
Il le note.
C'est inédit quoi. Attends,
c'est
nouveau quoi.
Je vais m'enregistrer.
Oui, parce que Thomas aussi était fan d'une série de tennis, de manga quand il était jeune, de les séquelles. Et aussi Olivier Tom.
Entre autres. Ciné Plus Frisson vous propose vendredi prochain 20h45 Attack the Block, un film de science-fiction britannique de Joe Cornish avec Nick Frost entre autres, ou une espèce de bande de gueules cassées, enfin de branleurs, de loubards et tout quoi, vont se battre contre des créatures extraterrestres qui surgissent des météores qui s'abattent sur la Terre. Tout ça filmé par Joe Cornish, c'est sur Ciné Plus Frisson. Ciné Plus Classique vendredi prochain 20h45 vous propose un film qui, je l'ai vu je sais pas combien de fois ce film, mais alors à chaque fois que je le vois, je me fais encore tout de suite chaque fois pipi dessus de rire tellement c'est énorme. Les producteurs, le premier Mel Brooks en 68 avec Zero Mostel, Gene Wilder, Lee Meredith et tout, quoi. C'est un film, c'est vrai bonheur. Et alors donc, on va remettre les choses dans leur contexte. Un film était sorti quelques années qui s'appelait également Les Producteurs. Et on a surtout dit que c'était un film qui était tiré de la comédie musicale de Broadway qui s'appelait Les Producteurs. Mais cette comédie musicale n'était pas une comédie musicale originale, c'était l'adaptation musicale en musicale du film de Mel Brooks, Les Producteurs. Donc, c'est un vrai bonheur ce film, il n'y a pas de problème. Le titre original, c'est Springtime for Hitler, printemps pour Hitler. Il faut vraiment comprendre de quoi ça parle pour.
C'est le film qu'il essaie de monter auprès des producteurs, si je me souviens bien.
Non, c'est-à-dire que c'est des producteurs qui sont complètement à la ramasse et qui essayent de vendre un faux projet, c'est-à-dire de se faire financer par plein de gens pour monter un spectacle, mais un spectacle est complètement bidon, avec des acteurs qui sont complètement porte-nawak, avec un metteur en scène, le mec qui écrit la série, c'est un type qui monte sur son toit en casque de nazi, quoi, et qui élève des pigeons, quoi, et qui a comme tenture des drapeaux nazis. C'est lui qui écrit la pièce Springtime for Hitler, et ils se disent que pour eux, la pièce doit faire un bide, elle doit faire un four pour qu'ils puissent rentrer dans leur monnaie et ne pas rendre le fric. Tu vois, c'est ça l'histoire des producteurs. Et en fait, il n'y a que des magouilles. C'est un vrai bonheur ce film, de toute façon, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que Mel Brooks, quoi, au niveau cinéma d'humour, est bon, vraiment, quoi. L'humour à fond les manettes, là, il a fait vraiment très très fort. Il a fait plein d'autres films après qui ont été vraiment très très bons aussi. Mais bon, pour moi, après, il a fait Blazing Saddles, quoi. C'est-à-dire, Sheriff est en prison. Il y a aussi eu Frankenstein Junior, des trucs comme ça, quoi. Les producteurs, quand même, ça reste vraiment pour moi le meilleur film de Mel Brooks. C'est vendredi prochain sur Ciné Plus Classique à partir de 20h45. Sur OCS Choc, toujours vendredi prochain à 22h20, je vous en ai déjà parlé, je vous l'avais présenté, le film de Daniel Monzón, Cellule 211. Film espagnol, film de prison, très très bien, quand même, avec Luis Tosar, entre autres Alberto Amman. Et on termine avec FX qui vous propose, genre, je sais pas ce qu'il y a comme FX dans ce film, c'est un film musical, c'est le seul film musical, il me semble, tourné par Sidney Lumet en 78, c'est The Wiz, avec Ted Ross, Diana Ross, Michael Jackson, Richard Pryor, c'est le Wizard of Oz, version musicale black.
Au plus fort quand même de
De la vague disco, 78.
Mais vraiment au meilleur de leur carrière, donc ça doit être assez fun.
Ouais, bon.
Ok, d'accord.
C'est à regarder de toute façon. Diana Ross était vraiment au sommet de sa carrière, on peut le dire, au niveau commercial et tout. Quoi. Elle avait fait très très fort et tout. Quoi. Elle essayait de booster pour surnager dans la vague disco. Elle a surnagé la vague disco, n'a pas surnagé qu'en fait, quoi, c'est vrai. Quoi. Et il y avait Michael Jackson qui venait pratiquement juste de s'affranchir de ses frangins et qui tentait sa carrière solo.
Qui avait fait un album disco assez pitoyable, mais il était pas mal, il avait une très belle voix à l'époque.
Ouais, mais c'était juste avant qu'il fasse le premier album qu'il a rendu célèbre avec je me rappelle pas comment il s'appelle ce disque, avec la première co-réalisation avec Quincy Jones. Bon,
tout à fait. FMR 13h31, c'est le Super Week-end numéro 372 et je crois qu'on termine là. Donc on a donc une nouvelle rubrique désormais, on vous fait un petit bonus, c'est un anti-bêtisier en fait, on va vous apprendre un petit truc en 30 secondes. Et en 30 secondes, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est l'histoire d'un repas dans un restaurant dans les années 50 à Marcinelle, c'est en Belgique. Franquin, Payot, Maurice, bref, tout le monde est là, prêt pour un gag, et commence à boire, on y va, on boit la bière et tout ça, et Franquin a un trou de mémoire au moment où il demande le sel. Passe-moi le schtroumpf. Et tout le monde explose de rire et tout le monde commence à parler toute la soirée en remplaçant des mots au hasard par le mot schtroumpf. Quelques gueules de bois plus tard sortira La Flûte à six schtroumpfs, une aventure de Johan et Pierre-Louis dans lequel apparaîtront des personnages en bleu. C'est de là que vient donc le mot schtroumpf et tout simplement Peyo a eu les dégâts collatéraux d'une soirée un peu trop arrosée. J'ai dépassé, je crois.
Ah oui, j'ai oublié de mettre le minuteur.
Ouais, pas de soucis. C'était C'était le Super Week-end et on fait le résumé ultimatum. Tu sais qu'il y en a qui nous écoutent en cours de route, voire qui ont eu le stream qui s'est interrompu en plein milieu et qui ont repris par la suite en plein FM. Ils ont loupé quelque chose.
Ah oui, entre autres, il y avait une nécro-BD, une retraite d'un pinceau du foot, du chabus jaune, un voyage dans le temps, des crimes chez les bouseux, du dragon alternatif, du choual... Du samouraï coréen, un aparté sweep, du loup-garou, des méchants de merde, une mandragore mutante, des amours trash et des fleurs sauvages, du Steven architecte, de la mafia pas très gentille, la famille de la fille de Hulk contre des requins dans la neige et du gars crypté.
Bon, non, c'est pas vrai, vous avez manqué tout ça. Comment bon faire? Eh ben, c'est très facile, il suffit d'aller sur le site internet de l'émission supplementweekend.fr et vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi des émissions précédentes, pratiquement toutes les émissions sur 10 ans d'ailleurs, avec aussi nos chroniques écrites quand on pense à les piger. Et vous pouvez aussi poser vos questions, participer au courrier des audilecteurs, Morgan n'attend que ça. N'hésitez pas, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet supplementweekend.fr, sans accent ni tiré. Et de là aussi, il y a les liens vers les réseaux sociaux si vous voulez intervenir pendant les directs. Ceci dit, eh ben, vous écoutez FMR sur 89.1 MHz et il est 13h34 minutes. Et vous nous écoutez donc sur 89,1 MHz en modulation de fréquence analogique. Vous écoutez FMR, nous sommes en direct sur cette fréquence et en alternance avec Booster FM sur la région de Toulouse. Et nous émettons en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, ma foi, j'aurais peut-être du Bézian.
Du Bézian, moi j'aurais du sans-titre.
Et je crois qu'il y aura une galette maudite.
C'est pas vrai.
D'ici du sport pour la prog musicale à 14h.
Bah oui.
Ok, d'accord, donc pas de participatif aujourd'hui.
Tu nous parles quoi en sport aujourd'hui?
Non, en sport il en parle pas, mais par contre c'est en musique ce qui serait intéressant.
Il n'y a pas de sport
qui a passé. Enfin bon, tu le connais quoi.